Chapitre 6. Capellan. Le vif est l'objet d'un profond dédain. Dans de nombreuses régions, on le tient pour une perversion, et l'on colporte des histoires d'humains doués du vif qui s'accoupleraient avec des bêtes pour accroître cette magie, ou qui sacrifieraient des enfants pour acquérir le don de parler le langage des animaux. Certains conteurs évoquent des marchés passés avec d'antiques démons de la terre. En vérité, je pense que le vif est une magie des plus naturelles. C'est lui qui permet à un vol d'oiseaux de virer soudain comme un organisme unique, ou à un banc de somono de se maintenir ensemble dans un courant rapide. C'est aussi le vif qui fait qu'une mère se rend auprès de son petit alors qu'il est en train de se réveiller. Je suis convaincu qu'il est au cœur de toute communication non verbale, et que tous les humains y possèdent une petite aptitude, qu'ils le reconnaissent ou non. Le lendemain, nous retrouvâmes la route d'Ars. Comme nous passions devant l'inquiétant pilier de pierre, je me sentis attiré vers lui. « Vérité n'est peut-être qu'à un pas de moi, » dis-je à mi-voix. Caudron émit un grognement.
« Ou votre mort ! Avez-vous complètement perdu l'esprit ? Croyez-vous que le premier artiseur venu puisse tenir tête à un clan bien entraîné ?»«
Vérité y est arrivé, lui, » répliquai-je, en songeant à la façon dont il m'avait sauvé à gué de négoce. Tout le reste de la matinée, Caudron garda une expression méditative sur le visage. Je ne cherchais pas à engager la conversation avec elle, car j'avais mon propre fardeau à porter. Une impression de vide au fond de moi, qui ne me laissait pas tranquille, un peu comme la sensation irritante d'avoir oublié quelque chose sans être capable de se rappeler quoi. J'avais laissé quelque chose derrière moi, sans le faire exprès, où j'avais oublié d'accomplir un acte important. En fin d'après-midi, le cœur soudain serré, je sentis ce qui me manquait. Vérité. Quand il se trouvait en moi, j'étais rarement certain de sa présence. Je la considérais comme une graine dissimulée qui attendait de germer. Les nombreuses fois où je l'avais cherché en moi sans le trouver n'avaient soudain plus aucun sens. Cette fois-ci, il n'y avait plus de doute ni d'interrogation, mais une certitude croissante. Vérité était restée en moi toute une année, et à présent, il avait disparu. Cela signifiait-il qu'il était mort? Je n'en savais rien. Il pouvait avoir été l'auteur de la gigantesque vague d'art que j'avais ressentie, mais elle pouvait avoir une autre origine, quelque chose qui l'aurait forcé à se retirer en lui-même. C'était probablement ce qui s'était passé. Il était déjà miraculeux que son contact d'art avec moi eût duré si longtemps. À plusieurs reprises, je faillis en parler à Caudron ou à Quatriken, et chaque fois, je m'aperçus que j'étais incapable de prouver quoi que ce fût. Qu'aurais-je pu leur dire? Avant, j'étais incapable de savoir si vérité se trouvait en moi ou non, et maintenant, je ne sens plus du tout sa présence. Le soir, près du feu, je considérais les rites de Quatriken en me demandant à quoi bon ajouter à ses inquiétudes. Je repoussais donc mes soucis et gardait le silence. Les privations et les épreuves continuelles finissent par donner des journées monotones qui ont tendance à se confondre quand on les raconte. Le temps était pluvieux, avec de brusques rafales de vent. Nos réserves de vivres étaient dangereusement basses, si bien que les plantes comestibles que nous ramassions au passage et la viande qu'œil de nuit et moi rapportions parfois le soir prenaient une grande importance pour nous tous. Je marchais à côté de la route, mais je restais toujours conscient de son murmure d'art, tel le bruissement d'un ruisseau près de moi. Le fou restait constamment drogué à l'écorce elfique, et il ne tarda pas à manifester le mélange d'énergie sans limite et de morosité qui étaient les signes distinctifs de l'usage de ce produit. Chez le fou, cela se traduisait par des galipettes et des acrobaties sans fin sur la route, ainsi que par des pics plus cruels et caustiques que d'habitude. Trop souvent, il plaisantait sur la futilité de notre quête et il ripostait à tout encouragement par un sarcasme féroce. À la fin du deuxième jour, il ne m'évoquait rien tant qu'un gosse mal élevé. Il ne tenait compte d'aucune rebuffade, pas même celle de Quatriken, et il avait visiblement oublié que le silence pouvait être une vertu. Je craignais, non pas que ces jacasseries incessantes et ces chansons venimeuses attirent le clan sur nous, mais que le bruit qu'il faisait ne masque l'approche de nos ennemis. Le supplier de se taire n'avait pas plus de résultat que de le lui ordonner sèchement. Il me portait tellement sur les nerfs que j'en vins à rêver de l'étrangler, et je ne devais pas être le seul. La seule amélioration que connut notre longue pérégrination sur la route fut l'adoucissement du temps. La pluie se calma peu à peu et ne tomba plus que par intermittence. Des feuilles s'épanouissaient sur les arbres qui bordaient notre voie, et les monts qui nous entouraient verdissaient presque du jour au lendemain. Sur ce terrain, les guépards retrouvaient leur vigueur, et Œil de Nuit n'avait que l'embarras du choix pour le petit gibier. Le manque de sommeil prélevait son tribut sur moi, mais laisser le loup chasser seul n'aurait rien résolu. J'avais peur de dormir. Pire encore, Caudron avait peur de me laisser dormir. De sa propre initiative, la vieille femme avait pris mon esprit en charge. Cela ne me plaisait pas, mais je n'étais pas stupide au point de résister, d'autant que Quetriken et Astérie avaient admis sa connaissance de l'art. Il m'était désormais interdit d'aller faire un tour seul ou avec le fou pour m'accompagner. Quand le loup et moi chassions la nuit, Quetriken venait avec nous. Astérie et moi partagions un tour de veille durant lequel, sur les recommandations de Caudron, la ménestrelle m'occupait l'esprit en m'enseignant à réciter des chansons et des histoires de son répertoire. Pendant mes brèves heures de sommeil, Caudron restait auprès de moi, une chope d'écorce elfique infusée à portée de main afin de me la faire ingurgiter pour étouffer mon art le cas échéant. Tout cela était irritant, mais le pire était lorsque nous marchions côte à côte le jour. Je n'avais pas le droit de parler de vérité, du clan, ni d'aucun sujet qui pouvait s'y rapporter. Nous étudions des tactiques de jeu, nous ramassions des plantes pour le repas du soir, où je lui récitais les histoires d'Astérie. Chaque fois qu'elle avait l'impression de me sentir le moins du monde distrait, elle me donnait un coup sec de son bâton de marche. Les rares occasions où je tentais de dévier la conversation en la questionnant sur son passé, elle répondit d'un ton hautain que cela risquait de nous ramener précisément sur les sujets à éviter. Il n'est rien de plus difficile que de s'empêcher de penser à quelque chose. Au milieu de mes occupations, le parfum d'une fleur m'évoquait Molly. Et de là à vérité, qui m'avait éloigné d'elle, il n'y avait qu'un pas. Ou bien une phrase du fou me rappelait la tolérance dont le roi subtil faisait preuve à l'égard de ses moqueries, et je revoyais alors la mort de mon roi et ses assassins. Pire que tout était le silence de Quetriken. Elle ne pouvait plus me confier ses inquiétudes au sujet de vérité. Quand je la voyais, je sentais à quel point elle avait besoin de le retrouver. Puis je me gourmandais parce que j'avais pensé à lui. Ainsi passaient pour moi les longues journées de marche. Peu à peu, le paysage se modifiait. D'une vallée à l'autre, la route descendait en lacets. Pendant quelque temps, elle longea une rivière à l'eau d'un gris laiteux, dont les crues et les décrues avaient ramené par endroits la largeur de la route à celle d'un simple sentier. Nous parvînmes finalement devant un pont immense. Lorsque nous l'avions aperçu de loin, le réseau délicat de sa travée m'avait évoqué des ossements, et j'avais craint que nous ne le trouvions réduit à un enchevêtrement de poutres brisées. Mais non. Nous nous avançâmes sur un ouvrage qui s'arquait au-dessus de la rivière jusqu'à une altitude tout à fait excessive, comme si on l'avait fait ainsi par pur plaisir. La route était noire et brillante, tandis que les superstructures et les infrastructures du pont étaient d'un gris poudreux. Je fus incapable d'identifier ce matériau. Était-ce du métal ou quelque pierre inconnue? Je n'en savais rien, car cela ressemblait plus à un fil tortillé qu'à du métal martelé ou à de la pierre ciselée. Même le fou se tut un moment devant tant de grâce et d'élégance. Passé le pont, nous gravîmes une suite de petites collines, puis entamâmes une nouvelle descente. Cette fois, la vallée était étroite et profonde, fissure au flanc escarpé, comme si, en des temps lointains, quelque géant avait fendu la terre avec une hache de combat. Inexorablement, la route suivait un des versants vers le fond. Nous ne voyions guère où elle nous menait car la vallée était envahie de brume et de végétation. Ce fait m'intrigua jusqu'au moment où le premier ruisselet d'eau chaude coupa notre chemin. Il jaillissait en bouillonnant d'une source sur le côté de la route et avait depuis longtemps dédaigné les murets et les drains sculptés qu'un architecte avait placés pour le contenir. Avec ostentation, le fou renifla la puanteur qui s'en échappait et se demanda s'il fallait l'attribuer à des œufs pourris ou à quelque flatulence tellurique. Pour une fois, même sa grossièreté ne parvint pas à me faire sourire, comme si son espièglerie durait depuis trop longtemps, et que ses plaisanteries eussent perdu tout humour pour ne garder qu'un aspect fruste et cruel. En fin d'après-midi, nous arrivâmes dans une région aux étangs fumants. Nous ne pûmes résister à la séduction d'un bain chaud, et Ketriken nous fit installer le camp très tôt. Nous avions été longtemps privés du plaisir de plonger notre corps là, dans l'eau chaude, et nous en jouîmes tous, sauf le fou, rebuté par l'odeur. Pour moi, l'eau ne sentait pas moins bon que celle qui alimentait les thermes de Jahamp, mais pour une fois, je fus heureux de me passer de sa compagnie. Il partit à la recherche d'une eau plus acceptable, tandis que les femmes prenaient possession de l'étang le plus étendu, et que je me retirais dans l'intimité relative d'un plus petit, un peu plus loin. J'y restais à tremper quelque temps, puis décidais de décrasser mes vêtements. L'odeur minérale de l'eau n'était rien comparée aux fumées dont mon corps les avait imprégnées. Cela fait, je les étalais sur l'herbe et allais m'allonger à nouveau dans l'eau. Œil de Nuit vint s'asseoir au bord de l'étang et m'observa perplexe, la queue proprement enroulée autour des pattes. « C'est agréable, » lui dis-je, sans nécessité car je savais qu'il percevait mon plaisir. Un silence, puis « Il doit y avoir un rapport avec ton manque de fourrure, » jugea-t-il. « Entre dans l'eau, je vais t'étriller. Ça contribuera à te débarrasser de ton pelage d'hiver. » Il émit un reniflement dédaigneux. « Je préfère me gratter et en enlever un peu chaque fois. » « Dans ce cas, inutile que tu restes ici à t'ennuyer. Va chasser si tu en as envie. » « J'aimerais bien, mais la grande louve m'a demandé de veiller sur toi. Alors je veille. » « Ketriken, c'est ainsi que tu l'appelles. »
Comment te l'a-t-elle demandé ?
Il me regarda d'un air étonné.
Comme tu l'aurais fait. Elle a posé les yeux sur moi, et j'ai su ce qu'elle avait à l'esprit. Elle s'inquiétait de te savoir seule.
C'est elle que tu l'entends. Et t'entend-elle ?
Presque, quelquefois.
Il se coucha brusquement sur le gazon et s'étira, sa langue rose enroulée.
Si ta femelle t'ordonne de me chasser, je me lierai peut-être avec celle-ci.
Ce n'est pas drôle. Sans répondre, il roula sur le dos et se mit à se gratter. Molly était à présent un sujet de malaise entre nous, une crevasse dont je n'osais pas approcher et qu'il s'obstinait à examiner. Je regrettais soudain le temps où nous ne faisions qu'un et où nous ne vivions que dans l'instant. Je me rallongeais, la tête sur la rive, le corps à moitié hors de l'eau. Je fermais les yeux et ne pensais à rien. Quand je rouvris les paupières, je vis le fou debout près de moi qui me regardait. Je sursautai, et Œil de Nuit aussi. Le loup se redressa en grondant.
« Quel gardien ?» lui dis-je.
« Il n'a pas d'odeur, et il marche sans faire plus de bruit qu'un flocon de neige, » fit le loup d'un ton plaintif.
« Il ne te quitte pas d'une semelle, hein ?» remarqua le fou.
« En effet, » répondis-je en me rallongeant dans l'eau. Il faudrait que j'en sorte sans tarder. Le soir tombait, et le rafraîchissement de l'air rendait l'eau chaude encore plus délassante. Au bout d'un moment, je jetai un coup d'œil au fou. Il était toujours debout, à côté de moi, à me regarder.
« Quelque chose ne va pas ?» lui demandai-je.
Il fit un geste évasif, puis s'assit gauchement sur la rive.
« Je pensais à ta fabricante de bougies, » dit-il tout à coup.
« Ah ?» fis-je à mi-voix. « Moi, je fais de mon mieux pour éviter d'y penser. » Il réfléchit un moment.
« Si tu meurs, que va-t-elle devenir ?»
Je me retournai sur le ventre et pris appui sur mes coudes pour le dévisager. Je pensais que sa question annonçait une nouvelle moquerie, mais son expression était grave.
« Burik s'occupera d'elle, » répondis-je, « aussi longtemps qu'elle aura besoin d'aide. C'est une femme capable, fou. »
Après quelques secondes de réflexion, j'ajoutais. Elle s'est débrouillée seule des années avant que... Fou, je ne me suis jamais vraiment occupé d'elle. J'étais auprès d'elle, mais elle ne dépendait que d'elle-même. En prononçant ces paroles, j'éprouvais à la fois de la honte et de la fierté. Honte de n'avoir presque rien fait pour elle à part lui apporter des ennuis, fierté qu'une telle femme m'ait aimé.
Mais tu voudrais au moins... « Qu'elle sache ce qui t'est arrivé, non ?»
Je secouai lentement la tête. Elle me croit mort, et Burik aussi. Si je meurs pour de bon, mieux vaut qu'elle s'imagine que ça s'est passé dans les cachots de Royal. Si elle apprenait que j'ai survécu, cela ne ferait que me souiller davantage à ses yeux.
Comment lui expliquer que je ne sois pas venu aussitôt la retrouver? Non. S'il m'arrive malheur, je veux qu'elle n'en sache rien. Un sentiment de tristesse me saisit à nouveau. Et si je survivais et retournais auprès d'elle? C'était presque pire à envisager. J'essayais de m'imaginer devant elle, en train de lui avouer qu'encore une fois, j'avais fait passer mon roi avant elle. Je fermais étroitement les yeux à cette idée.
Néanmoins, quand tout sera fini, j'aimerais bien la revoir, fit le fou.
Je rouvris les yeux.
Toi ?
Je ne savais même pas que vous vous étiez adressé la parole.
Le fou parut un peu interloqué.
Mais je parlais pour toi. Je voudrais m'assurer qu'elle ne manque de rien.
Je me sentis curieusement touché. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je.
Eh bien, ne dis rien. Indique-moi simplement où je puis la trouver,
reprit-il avec un sourire. Je ne le sais pas précisément. Imbre le sait, lui. Si je ne survis pas à ce qui nous attend, demande-lui. Évoquer ma propre mort me paraissait porteur de malchance. Aussi, ajoutai-je, naturellement, nous savons l'un comme l'autre que je survivrai. C'est prédit, non ? Il m'adressa un regard étrange.
Par qui ?
Mon cœur se serra. Par un quelconque prophète blanc, du moins je l'espérais, marmonnai-je. Je m'aperçus que jamais je ne m'étais enquis auprès du fou d'une prédiction concernant ma survie. Tout le monde ne s'en sort pas indemne, même quand on est victorieux. Je m'armai de courage. Est-il prédit que le catalyseur survivra ? Il parut se plonger dans de profondes réflexions. Puis il déclara soudain
« Imbre mène une existence dangereuse.
Rien n'assure qu'il s'en tirera. Et s'il ne s'en tire pas, tu dois bien avoir une idée de la région où se trouve la fillette. Ne veux-tu pas me l'indiquer ?» Le fait qu'il n'eût pas répondu à ma question était suffisant. Le catalyseur ne survivrait pas. J'eus l'impression de recevoir en pleine face une vague d'eau de mer glacée. Je me sentis ballotté par cette connaissance froide, puis je commençai à m'y noyer. Jamais je ne tiendrai ma fille dans mes bras. Jamais plus je n'éprouverai la chaleur du corps de Molly contre le mien. C'était presque comme une douleur physique, et j'en eus le vertige.
Fitz Chevalerie ?
Dit le fou d'une voix tendue. Il se plaqua soudain une main sur la bouche, comme s'il était incapable de parler. De l'autre main, il agrippa son propre poignet. Il paraissait au bord de la nausée. « Ça va, » dis-je d'une voix défaillante. « Peut-être vaut-il mieux que je sache ce qui m'attend. » Je soupirai et fouillai ma mémoire. Je les ai entendus parler d'un village où Burik va faire des courses. Ça ne doit pas être très loin. Tu pourrais commencer par là. Le fou eut un petit hochement de tête pour m'encourager à poursuivre. Des larmes perlaient à ses yeux. « Capellan, » fis-je à mi-voix. Il resta encore un instant à me dévisager, puis il s'écroula brusquement de côté. « Fou !» Pas de réponse. Je me levai, l'observai tandis que l'eau tiède dégoulinait de mon corps. Il était étendu sur le flanc comme endormi. « Fou !» m'exclamai-je d'un ton irrité. Comme il ne répondait toujours pas, je sortis de l'étang et m'approchai de lui. Couché sur la rive herbue, il imitait la respiration profonde et régulière du dormeur. « Fou !» dis-je encore en m'attendant à ce qu'il se redresse d'un bond sous mon nez. Mais non. Il fit un geste vague, comme si je l'avais dérangé dans un rêve. Qu'il passe brutalement d'une discussion grave à une espièglerie m'irritait à un point que les mots étaient impuissants à décrire. Pourtant, c'était dans le droit fil de son attitude des derniers jours. Je savais que je ne retrouverais ni détente ni paix dans l'eau chaude de l'étang, toujours dégoûtant. Je commençais à ramasser mes vêtements et je refusais d'accorder le moindre regard au fou, tandis que je me séchais et agitais bras et jambes pour les débarrasser des dernières gouttes d'eau. De toute façon, mes habits étaient encore un peu humides. Le fou dormait toujours quand je me détournais de lui et repartis vers le camp, œil de nuit sur mes talons.
« C'est un jeu ? »
demanda-t-il. « Si on veut, » répondis-je laconiquement. « Mais il ne m'amuse pas. » Les femmes étaient déjà de retour au bivouac. Ketriken étudiait sa carte, tandis que Caudron donnait au Gepa de petites portions du grain qui restait. Astérie, assise près du feu, se passait un peigne dans les cheveux. Elle leva les yeux à mon approche. « Le fou n'a pas trouvé d'eau fraîche ?» demanda-t-elle. Je haussai les épaules. « Pas quand je l'ai vu la dernière fois. Du moins, s'il en avait trouvé, il ne la portait pas sur lui. » « Nous en avons assez dans les outres pour nous débrouiller de toute façon. C'est seulement que je préfère de l'eau fraîche pour la tisane. » « Moi aussi. » Je pris place près du foyer et observai la ménestrelle. Machinalement, elle tressait ses cheveux lisses et humides en petites nattes qu'elle enroulait ensuite sur sa tête et fixait solidement à l'aide d'une épingle. « J'ai horreur d'avoir les cheveux mouillés dans les yeux, » fit-elle. Et je m'aperçus alors que je la regardais fixement depuis un moment. Je détournai les yeux, gêné.
« Ah, il sait encore rougir, » fit-elle en riant.
Puis elle ajouta d'un ton ironique. « Voulez-vous emprunter mon peigne ?» Je passai ma main dans mes cheveux hirsutes. « Ce ne serait pas inutile, je crois en effet, » marmonnai-je. « C'est sûr, » acquiesça-t-elle. Mais au lieu de me donner le peigne, elle vint s'agenouiller derrière moi.
« Comment avez-vous réussi à les mettre dans un état pareil ?»
s'étonna-t-elle en commençant à tirer sur les nœuds. « Ça se fait tout seul, » grommelai-je. Le contact doux de ses doigts, l'attraction sans violence sur mes cheveux me procurait des sensations extraordinairement agréables.
Le problème, c'est qu'ils sont très fins.
Je n'ai jamais connu de Servien qui ait les cheveux aussi fins. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Une côte de cerf par une journée venteuse, et Molly assise sur une couverture rouge à côté de moi, son corsage à demi lacé. Elle venait de m'avouer qu'avec Burick, j'étais l'homme le mieux fait des écuries.
« Je pense que ça vient de tes cheveux, » m'avait-elle dit. « Ils ne sont pas rudes comme ceux de la plupart des Serviens. »
Cela avait été un bref intermède de compliments intimes et de bavardages sans queue ni tête, et je me rappelais son doux contact sous le vaste ciel. Je faillis sourire. Mais je ne pouvais évoquer cette journée sans me souvenir aussi que, à l'instar de tant d'autres occasions, elle s'était achevée sur une querelle et des larmes. Ma gorge se noua, et je secouai la tête dans l'espoir de chasser ces images d'autrefois.
« Ne bougez pas !» me gronda la ménestrelle en tirant brutalement sur un nœud. « J'ai presque fini de les démêler. Accrochez-vous, c'est le dernier. »
Elle saisit les cheveux au-dessus du nœud et l'arracha si vivement que je ne ressentis presque rien. « Passez-moi la lanière, » me dit-elle. Je la lui donnai, et elle noua ma chevelure en queue de guerrier. Sur ces entrefaites, Caudron revint de nourrir les Gepas.
Il y a de la viande ?
Demanda-t-elle d'un ton sarcastique. Je soupirai. Pas encore, mais bientôt, promis-je. Je me remis debout avec lassitude.
Veille sur lui, loup,
ordonna Caudron à œil de nuit. Il répondit par un petit frémissement de la queue et me conduisit hors du camp. La nuit était tombée quand nous regagnâmes le bivouac. Nous étions très satisfaits de nous-mêmes, car nous rapportions, non du lapin, mais une créature aux sabots fendus qui évoquait un petit chevreau, quoiqu'avec un pelage plus soyeux. Je l'avais éventré sur place, à la fois pour donner les entrailles à œil de nuit et pour alléger la carcasse. Puis j'avais porté l'animal sur mon épaule, ce que je n'avais pas tardé à regretter. Tous les parasites piqueurs dont il était l'hôte n'avaient été que trop heureux de se transférer sur moi. Je n'aurais plus qu'à reprendre un bain cette nuit. J'adressai un sourire complice à Caudron quand elle vint à notre rencontre et s'empara du chevreau pour l'examiner. Mais au lieu de nous féliciter, elle demanda.
« Vous reste-t-il de l'écorce elfique ?»«
Je vous ai remis tout ce que je possédais, » répondis-je. « Pourquoi ? Vous n'en avez plus ? Remarquez, vu le comportement que ça induit chez le fou, ce serait presque une bonne nouvelle. » Elle me lança un regard étrange.
« Vous êtes disputé avec lui ?»
demanda-t-elle d'une voix tendue.
« L'avez-vous frappé ?»«
Quoi ? Mais bien sûr que non. »«
Nous l'avons trouvé près de l'étang où vous vous êtes baigné, » dit-elle à mi-voix. « Il s'agitait dans son sommeil comme un chien qui rêve. Je l'ai réveillé, mais même ainsi, il avait une expression vague. Nous l'avons ramené ici, mais il s'est glissé aussitôt sous ses couvertures. Depuis, il dort comme une souche. »
Nous étions arrivés près du feu de camp. Je laissai tomber le chevreau par terre et me précipitai vers la tente, œil de nuit devant moi.
« Il a repris conscience, mais un moment seulement, » poursuivit Caudron. « Et puis, il est retombé dans le sommeil. On dirait quelqu'un qui se remet d'un profond épuisement ou d'une très longue maladie. Je suis inquiète pour lui, je ne vous le cache pas. »
Je l'écoutai à peine. Une fois dans la tente, je m'agenouillai auprès du fou. Il était couché sur le flanc, roulé en boule. Ketriken aussi était à genoux près de lui. Le visage assombri par l'anxiété. L'aspect du fou était celui d'un homme qui dort, tout simplement, et le soulagement le disputa en moi à l'irritation.
« Je lui ai donné presque toute l'écorce dont je disposais, » continua Caudron. « Si je lui administre ce qui reste, nous n'aurons plus de réserve si jamais le clan l'attaque. »
« N'y a-t-il pas une autre plante ?» J'interrompis Ketriken. « Pourquoi ne pas le laisser dormir tout bêtement ? Ce sont peut-être les derniers symptômes de son autre maladie, ou un effet secondaire de l'écorce elle-même. Même avec des produits puissants, on ne peut pas duper l'organisme très longtemps, et il finit toujours par annoncer ses exigences.
« C'est exact !» dit Caudron à contre-cœur. « Mais cela ressemble tellement peu au fou !»
Il n'est plus lui-même depuis le troisième jour où il a pris de l'écorce, remarquai-je. Il a la langue trop acérée, la plaisanterie trop mordante. Si vous voulez mon avis, je le préfère endormi qu'éveillé ces temps-ci.
Ma foi, il y a peut-être du vrai dans ce que vous dites. Nous allons le laisser dormir,
dit Caudron. Puis elle reprit sa respiration, comme pour ajouter quelque chose, mais elle se ravisa. Je ressortis afin de préparer le chevreau pour la cuisson. Astérie me suivit. Pendant quelque temps, elle m'observa en silence en train de dépecer l'animal. Il n'était pas bien gros. Aidez-moi à faire du feu. Nous allons le rôtir tout entier. La viande cuite se conservera mieux par ce temps.
Tout entier ?
Sauf une généreuse portion pour toi. D'un geste tournant, j'insérai mon couteau dans une articulation, rompis le manche de la patte et découpai le cartilage restant.
Il me faudra davantage que des os,
me rappela œil de nuit. Ne t'inquiète pas, lui répondis-je. Quand j'eus achevé ma tâche, il avait récupéré la tête, la peau, les quatre fanons et un quartier de derrière. Cela ne me facilita pas l'embrochage de la bête, mais j'y parvins finalement. C'était un animal jeune, et bien qu'il n'eût guère de graisse, je pensais que sa viande serait moelleuse. Le plus difficile serait d'attendre qu'il soit cuit. Les flammes léchaient et roussissaient la carcasse, et l'odeur savoureuse de la viande rôtie me mettait l'eau à la bouche.
« Êtes-vous en colère contre le fou ?»
me demanda la ménestrelle à mi-voix.
« Pardon ?»
Je lui jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Depuis le temps que nous voyageons ensemble, j'ai pu observer comment vous vous comportiez l'un avec l'autre. Vous êtes plus proches que des frères. J'aurais pensé vous voir rester à son chevet, rongé d'inquiétude, comme quand il était malade. Or, vous agissez comme si tout était normal. Peut-être les ménestrels sont-ils trop clairvoyants. Je repoussai mes cheveux de mon visage et réfléchis. Plus tôt dans la journée, il est venu me trouver pour bavarder. Il voulait savoir que faire pour Molly si je ne survivais pas à notre voyage. Je regardai Astérie et secouai la tête. Ma gorge se noie et j'en fus surpris. Il ne pense pas que je m'en sortirai. Et quand c'est un prophète qui vous l'annonce, il est difficile de ne pas le croire. Son air atterré ne fit rien pour apaiser mon angoisse et démentit les mots qu'elle prononça ensuite. Les prophètes n'ont pas toujours raison. Vous est-il assuré qu'il avait vu votre mort ? Quand je lui ai posé la question, il n'a pas voulu répondre.
Jamais il n'aurait dû aborder un tel sujet, s'exclama-t-elle, furieuse. Comment peut-il espérer que vous aurez le courage d'accomplir ce qu'on attend de vous si vous êtes convaincu que vous mourrez alors ?
Je haussai les épaules sans mot dire. J'avais refusé d'y penser pendant toute la durée de notre chasse, mais au lieu de s'effacer, ma peur n'avait fait que croître. Je fus soudain envahi par une profonde détresse, et aussi par une grande colère contre le fou qui m'avait révélé mon avenir. Par un effort de volonté, je pris le temps de réfléchir. Il n'est pas responsable des nouvelles qu'il apporte, et son intention partait d'un bon sentiment. Pourtant, qu'il est dur d'affronter sa propre mort, comme un événement qui se produira, non pas aujourd'hui quelque part, mais probablement avant que l'été perde sa verdure. Je relevai la tête et promenai mon regard sur la prairie verdoyante qui nous entourait. Il est étonnant de constater à quel point l'aspect d'une chose peut changer quand on sait que c'est la dernière fois qu'on la voit. Les moindres feuilles des moindres rameaux ressortaient avec netteté en une multitude de vers différents. Les oiseaux se lançaient des défis ou passaient dans un éclair de couleurs. L'odeur de la viande en train de cuire, la terre elle-même et jusqu'au bruit que faisait œil de nuit en broyant un os devenaient soudain uniques et précieux. Combien de journées comme celle-ci avais-je traversées, aveugle, uniquement préoccupé de me payer une chope de bière à la prochaine ville ou de décider quel cheval reférer. Il y avait bien longtemps, à Castelserre, le fou m'avait recommandé de vivre chaque jour, comme s'il était de la plus haute importance, comme si chaque jour le sort du monde dépendait de mes actions. Et je comprenais soudain aujourd'hui ce qu'il avait essayé de me dire. Aujourd'hui, que le nombre de jours qui me restaient avait tellement diminué que je pouvais presque les compter. Astérie posa les mains sur mes épaules, puis elle se pencha et plaça sa joue contre la mienne. « Fitz, je suis navré, » dit-elle à voix basse. J'entendis à peine ses paroles, mais je perçus bien sa conviction que j'allais mourir. Je regardais la viande qui rôtissait au-dessus du feu. Ce chevreau avait été vivant. « La mort est toujours au bord de maintenant. » La pensée d'œil de nuit était douce. « La mort nous guette. » Et elle est toujours assurée de sa prise. Il ne sert à rien d'y songer sans cesse. Mais dans nos entrailles et dans nos os, nous savons tous qu'elle est là. Tous, sauf les humains. Saisi, je vis ce que le fou avait cherché à m'enseigner à propos du temps. Je regrettais soudain de ne pas pouvoir revenir en arrière, afin de revivre chaque journée séparément. Le temps. J'en étais prisonnier, enfermé dans un petit bout de maintenant qui était le seul sur lequel je puisse avoir de l'influence. Tous les bientôt et les demain que je projetais n'étaient que des fantômes qui pouvaient m'être arrachés à tout instant. Mes intentions n'étaient rien. Tout ce que j'avais, c'était maintenant. Je me levai brusquement. « Je comprends, » dis-je tout haut. Il était obligé de me le révéler pour me pousser à continuer. Je dois cesser d'agir comme s'il existait un demain où je pourrais tout régler. Tout doit être accompli maintenant, tout de suite, sans se préoccuper du lendemain. Ne pas placer sa foi dans le lendemain. Ne pas avoir peur du lendemain. Fitz, Astérie s'écarta d'un pas de moi. À vous écouter, j'ai l'impression que vous allez faire une bêtise. Ses yeux noirs étaient emplis d'inquiétude.
Une bêtise ? Répétai-je. Comme le fou, oui.
Pourriez-vous surveiller la viande, s'il vous plaît ? Demandai-je humblement à la ménestrelle. Sans attendre sa réponse, je me dirigeai vers la tente. Astérie s'écarta de mon chemin. Dans la yourte, Caudron était assise près du fou et le regardait dormir. Kitriken réparait une couture d'une de ses bottes. Elles levèrent toutes deux les yeux vers moi quand j'entrais. « Il faut que je lui parle, » dis-je simplement. « Cela seul, si cela ne vous dérange pas. » Je ne prêtai aucune attention à leur regard intrigué. Je regrettais déjà d'avoir fait part à Astérie de ce que le fou m'avait dit. Elle allait sans doute en faire profiter les autres, mais pour l'instant, je n'avais pas envie de partager avec eux ce que je savais. J'avais une nouvelle importante à transmettre au fou, et je voulais le faire à l'instant. Sans m'attarder à regarder les deux femmes quitter la yourte, je m'assis près du fou, puis je posai doucement ma main contre sa joue fraîche. « Fou ? » murmurai-je. « Il faut que je te parle. » Je comprends. Je crois que j'ai enfin compris ce que tu m'as toujours essayé de me communiquer. Je dus m'y reprendre à plusieurs fois avant qu'il commence à se réveiller. J'en venais à partager l'inquiétude de Caudron. Ce n'était pas le sommeil normal d'un homme en fin de journée. Mais il finit par ouvrir les yeux et me regarda dans la pénombre.
« Fitz, c'est le matin ?»
demanda-t-il. Non, le soir. Il y a de la viande fraîche en train de rôtir, et elle sera bientôt à point. À mon avis, un bon repas t'aidera à te remettre sur pied. J'hésitais, puis me rappelais ma nouvelle résolution. Maintenant.
Je t'en ai voulu tout à l'heure, à cause de ce que tu m'as dit. Mais je crois comprendre à présent pourquoi tu l'as fait. Tu as raison. Je me cachais dans l'avenir et je gaspillais mes journées. Je pris une inspiration. Je veux te donner le clou d'oreille de Burick, le remettre à ta garde. Après, j'aimerais que tu le lui apportes, et aussi que tu lui dises que je ne suis pas mort devant la chaumière d'un berger, mais en restant fidèle au serment que j'ai prêté à mon roi. Cela aura peut-être de l'importance pour lui, et cela le remboursera peut-être un peu de tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a enseigné à devenir un homme. Je veux qu'il le sache. Je défis l'attache du clou, le retirai de mon oreille et le plaquai dans la main sans force du fou. Couché sur le côté, il m'écoutait en silence la mine grave. Je secouais la tête. Je n'ai rien à faire parvenir à Molly. Rien pour notre fille. Elle aura l'épingle que Subtil m'a donnée il y a bien longtemps, mais guère plus. Je m'efforçais de parler d'une voix ferme, mais la portée de mes propos m'étouffait. Il serait peut-être plus avisé de ne pas révéler à Molly que j'ai survécu au cachot de Royal, si c'est possible. Burick comprendra le motif d'un tel secret. Elle a déjà pleuré ma mort une fois. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Je suis heureux que tu veuilles la retrouver. Fabrique des jouets pour Horty. Les larmes me montèrent aux yeux. Le fou s'assit dans ses couvertures, le visage soucieux. Il me saisit doucement par l'épaule. « Si tu tiens à ce que je retrouve Molly, je le ferai, tu le sais, si l'on doit en arriver là. Mais pourquoi songer à cela maintenant? Que crains-tu ?»« Ma mort, avouai-je. Mais ce n'est pas en la craignant que je l'empêcherai. Je prends donc les dispositions que je peux, comme j'aurais dû le faire il y a longtemps déjà. » Je plantai mon regard dans ses yeux embrumés. « Donne-moi ta promesse. » Il contempla le clou d'oreille dans le creux de sa paume. « Je te donne ma promesse, bien que je ne vois pas pourquoi j'aurais, selon toi, de meilleures chances d'y arriver. Je ne sais pas non plus comment les retrouver, mais j'y parviendrai. » J'éprouvais un profond soulagement. Je te l'ai dit tout à l'heure, je sais seulement que leur chaumière se situe non loin d'un village du nom de Capellan. Il y a plusieurs Capellans en Serre, c'est vrai, mais si je me dis que tu les retrouveras, je te fais confiance.
Capellan ?
Son regard se fit lointain.
Il me semble me rappeler. J'avais l'impression d'avoir rêvé.
Il secoua la tête et un sourire flotta sur ses lèvres.
Je partage donc à présent un des secrets les mieux préservés de Serre. Imbre lui-même m'a avoué ne pas savoir précisément où Burick avait caché Molly. Il connaissait un lieu où laisser des messages à Burick afin de pouvoir entrer en contact avec lui.
« Moins il y a de gens au courant d'un secret, moins ils sont à pouvoir le révéler, » m'a-t-il dit.
« Pourtant, il me semble avoir déjà entendu ce nom, Capellan, à moins que j'en aie rêvé. »
Mon cœur se glaça. « Comment ça? Tu as eu une vision de Capellan ?» Il secoua la tête.
« Non, pas une vision, mais un cauchemar, aux arêtes plus aiguës que d'habitude, si bien que quand Caudron m'a trouvé, puis qu'elle m'a réveillé, j'avais l'impression de n'avoir pas fermé l'œil et d'avoir passé des heures à fuir pour sauver ma peau. »
Il secoua de nouveau la tête, lentement, et se frotta les yeux en bâillant.
« Je ne me rappelle même pas m'être allongé dehors pour dormir. Pourtant, c'est là qu'on m'a découvert. »
J'aurais dû me rendre compte que tu n'allais pas bien. Dis-je d'un ton d'excuse. Tu étais près de la source chaude, tu parlais de moi, de Molly, de divers sujets, et puis tu t'es allongé sans prévenir et tu t'es endormi. J'ai cru que tu te moquais de moi, avouai-je d'un air penaud. Il bâilla sans décrocher la mâchoire.
Je ne me rappelle pas t'avoir rencontré là,
dit-il. Il huma soudain l'air.
Tu as bien parlé de viande en train de rôtir?
Je hochai la tête. Le loup et moi avons attrapé un chevreau. Il est jeune et il devrait être tendre.
J'ai tellement faim que je serais prêt à manger une paire de vieilles chaussures.
Il rejeta ses couvertures et sortit de la tente. Je le suivis. Le repas qui suivit fut le meilleur moment que nous ayons vécu depuis des jours. Le fou paraissait las et pensif, mais son humeur abrasive l'avait quitté. La viande,
sans être aussi tendre que de l'agneau gras, était supérieur à tout ce que nous avions mangé depuis des semaines. À la fin du repas, je partageais la satiété somnolente d'œil de nuit. Il se roula en boule près de Ketriken pour partager sa veille pendant que je m'apprêtais à me coucher. Je pensais trouver le fou bien éveillé après avoir tant dormi dans l'après-midi. Mais il se glissa le premier entre ses couvertures et dormait à point fermé avant même que j'eusse ôté mes bottes. Caudron déplia son tissu de jeu et me donna un problème à résoudre, après quoi j'allais me reposer pendant que la vieille femme veillait sur mon sommeil. Mais je ne dormis guère. À peine avais-je commencé à m'assoupir que le fou se mit à s'agiter en poussant de petits glapissements dans son sommeil. Même œil de nuit glissa la tête par l'entrée de la tente pour voir ce qui se passait. Caudron dut s'y reprendre à plusieurs fois pour réveiller le fou, et quand il se rendormit, il retomba aussitôt dans son rêve bruyant. Je tendis alors la main pour le secouer, mais quand je le touchais, j'eus soudain conscience de tout son être. L'espace d'un instant, je partageais sa terreur.
« Fou, réveille-toi !» lui criai-je, et comme en réaction à cet ordre, il se redressa dans ses couvertures.
« Lâchez-moi ! Lâchez-moi !»
s'écria-t-il éperdu. Puis il balaya la tente du regard et s'aperçut que nul ne le tenait. Il se laissa retomber sur ses couvertures et tourna le regard vers moi. « De quoi rêvais-tu ? » lui demandai-je. Il réfléchit, puis secoua la tête.
« Tout a disparu. »
Il prit une inspiration hachée.
« Mais je redoute que cela m'attende si je ferme les yeux. Je vais voir si Ketriken n'aurait pas besoin de compagnie par hasard. » Je préfère rester éveillé qu'affronter ce que j'affrontais dans mes rêves.
Je le regardais quitter la tente. Puis je me rallongeais sous mes couvertures et fermais les yeux. Aussi fin qu'un fil d'argent, je trouvais le lien d'art qui nous rattachait.
« Ah, c'est donc ça !» s'étonna le loup.
« Tu le perçois toi aussi ?»«
Quelquefois seulement. Ça ressemble à ce que tu avais avec vérité. »
« Mais en plus faible. »«
Plus faible ?» Je ne crois pas.
Œil de nuit réfléchit.
Pas plus faible, mon frère, différent. Ça ressemble plus à un lien de vif qu'à l'union de l'art.
Le fou sortait de la tente et le loup leva les yeux vers lui. Au bout d'un petit moment, le fou fronça les sourcils et regarda Œil de nuit.
Tu vois, fit le loup, il me sent, pas clairement, mais il me sent. Salut, fou. Mes oreilles me démangent.
Devant la tente, le fou se baissa soudain pour gratter les oreilles du loup.